Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis enchanté de vous retrouver pour Culture Média au menu. Vous le savez, mais c'est toujours bon de le répéter. Les médias, la culture au sens large, très large. Tous les médias, toutes les formes de culture sans exclusive. Vous retrouvez évidemment le journal des médias de Charles Decamp, Bertrand Chamerois pour son écran de veille, Eva Rock et son zapping du lendemain. Et je n'oublie pas Hélène Manarino et son portrait inattendu. Ce sera aux alentours de 10h20. Nos indispensables du jour, des conseils cinéma. Nous sommes mercredi, c'est le jour de sortie des films. Et on va tout vous dire sur le fridge. Non, ça s'achète pas dans un magasin, c'est le Comedy Club de Kev Adams. Nous sommes ensemble pour 2 heures en direct et vous pourrez évidemment podcaster l'émission ou la partie qui vous manque sur europe1.fr. Tiens, on va parler de podcast justement. Notre info média d'abord, une première dans l'histoire de la presse française. Une centaine de médias français, journaux, télé, radio, dont Europe 1, qui défendent souvent des points de vue très différents, voire opposés, décident ensemble de s'adresser chacun à son public de manière solennelle pour défendre la liberté d'expression, notamment en plein procès des tueurs de Charlie Hebdo. Nous serons avec les directeurs des rédactions de Nice Matin, Denis Carreau, et de L'Express, Éric Scholl. Puis nos invités, Benoît Hamon, ancien candidat socialiste à la présidentielle, et la journaliste Camille Maestrachi, qui lance un podcast anti-déprime. Ça s'appelle « Et si ?» et le premier épisode est consacré à l'école. Et si l'école n'était jamais finie? Bonne question, anti-déprime, tiens. Enfin, le surdoué du théâtre français contemporain, je n'exagère pas, Alexis Michalik, avant le confinement, les 5 pièces qu'il a écrites dans sa jeune vie étaient toutes les 5 à l'affiche. Bonne nouvelle, elles reviennent toutes et il reprend à la Scala une histoire d'amour, il la reprend sur scène, lui-même, c'est un comédien. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Charles Decamp.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
C'est votre journal des médias, le sommaire du jour.
M6 répond au gouvernement algérien, un reportage sur Kiabi qui ne passe pas, le drôle de modèle publicitaire de CNews et la suite du feuilleton Covid dans les médias.
Mais on commence évidemment par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier à la télé?
C'est TF1 qui a pris la première position avec le retour de Good Doctor. La chaîne avait stoppé la diffusion au début de la saison 3 en novembre 2019. Hier, ils étaient 3,8 millions à retrouver les héros de la série médicale, soit 18,2% du public. La série est aussi largement leader sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans à 29%. Tous ces scores sont en légère baisse par rapport au lancement de la saison 2 l'année dernière. C'est France 3 qui prend la deuxième position avec le retour d'Alexandra L, la série portée par Julie Depardieu. La chaîne n'est pas loin derrière TF1, 3,7 millions de téléspectateurs pour une part d'audience de 16,9%. C'est France 2 qui prend la troisième position avec le jeu Tout le monde joue avec la cuisine de Nagui. 1,8 million de téléspectateurs pour 9,5% de part d'audience. C'est un faible score, mais qui suffit quand même à devancer M6. La chaîne est quatrième avec les deux derniers épisodes de Un homme ordinaire, la série inspirée de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès dont on a beaucoup parlé. 1,6 million de téléspectateurs, soit 7,9% de part d'audience. 700 000 personnes étaient là la semaine dernière et ne sont pas revenues hier.
Culture Média.
Et on reste sur M6 justement, on débute ce journal des médias par la réponse de M6 au gouvernement algérien.
On en parlait hier, les autorités locales n'ont pas du tout apprécié le reportage d'enquête exclusive diffusé dimanche sur M6. Bernard de la Villardière proposait une plongée au cœur de l'Algérie, secouée depuis plus d'un an par des manifestations contre le pouvoir en place. L'émission suivait 3 jeunes Algériens dans ce climat très particulier, mais le ministère de la communication algérien n'a pas apprécié l'image du pays véhiculée par enquête exclusive, au point d'interdire à la chaîne d'opérer en Algérie. M6 est accusé d'avoir utilisé de fausses autorisations pour tourner son reportage et d'avoir eu pour objectif de ternir l'image de l'Algérie. Le ministère affirme également que les 3 témoins ont fait marche arrière et assure que leurs propos ont été déformés.
Et M6 a réagi hier.
Dans un communiqué publié hier après-midi, la chaîne a catégoriquement démenti avoir eu recours à de fausses autorisations de tournage. M6 assure que l'équipe de tournage a été contrôlée à plusieurs reprises et qu'elle était en règle. Elle révèle aussi que le tournage des plateaux de Bernard de la Villardière qui devait avoir lieu a posteriori a été refusé et que donc ils n'ont pas été tournés. La chaîne demande donc au gouvernement algérien de revenir sur sa décision et de lui permettre de faire son travail sur place afin, je cite, de poursuivre de façon objective et sans aucune polémique sa mission d'information.
Et puis on reste sur M6, Charles, pour évoquer un reportage de 66 minutes, reportage qui a du mal à passer.
Dimanche, le grand format du magazine présenté par Xavier Demoulin était consacré à la marque Kiabi, l'enseigne de vêtements à petit prix originaire du nord de la France. Il y avait évidemment plusieurs séquence dans ce reportage qui commençait par s'intéresser à une mère de jumelles présentée comme une cliente fréquente de Kiabi.
À Sailly-les-Lanois, près de Lille, tous les matins, c'est la même galère pour Céline Villain.
Tu viens choisir un pantalon, tu viens choisir un t-shirt.
Habiller ses jumelles de 4 ans
Maman.
Est devenu un exercice très compliqué.
quand je paye des t-shirts 5 euros, bah, ma foi, si dans une semaine il revient et qu'il y a une tâche que je ne sais pas enlever, et bah, c'est pas, en soi, ce n'est pas très grave.
Du coup, Céline se lâche et sa poussette se transforme en caddie. La facture grimpe à plus de 300 euros. Mais grâce à sa carte de fidélité, Céline va faire une belle économie.
Eh ben voilà, je suis hyper surprise de me dire j'arrive à avoir autant de choses pour les filles dans un budget qui reste hyper maîtrisé.
À l'issue de ses courses, la voix off fait même le calcul, 43 articles pour 272 euros, soit une moyenne de 6,32 euros par vêtement.
Magnifique, ça ressemble un peu à une pub.
Et le problème, c'est qu'on pourrait penser que c'en est une. Sur Twitter, un internaute a révélé que la cliente en question était la directrice d'une agence de communication qui travaille. Vous l'avez deviné pour Kiabi. Le site Arrêt sur Image a mené l'enquête, il révèle que c'est bien le cas. Il a également joint la principale intéressée. Elle confirme que son agence travaille bien pour Kiabi, mais elle ne comprend pas trop la polémique. Voilà ce qu'elle a expliqué à Arrêt sur Image, je cite, « Une amie qui travaille à Kiabi m'a dit que la famille prévue pour le tournage s'était désistée. Comme elle sait que je suis une grosse cliente, elle m'a proposé de la remplacer. Elle cherchait une mère de famille avec plusieurs enfants, cliente récurrente de Kiabi, qui allait y faire ses courses de rentrée. Je correspondais à tous les critères. »
Et du côté de M6, comment on explique cela ?
Alors, Arrêt sur Image a évidemment joint la production du magazine qui a renvoyé le site vers la société de production qui a tourné le reportage. Je cite, « Nous avons vérifié avec sa carte de fidélité qu'elle était bien une cliente très régulière. La journaliste qui est allée tourner chez elle lui a demandé si elle travaillait pour Kiabi. Elle a vérifié son LinkedIn, mais on aurait dû être plus vigilant. On s'est fait avoir comme des bleus.
Moins de pubs pour plus de revenus publicitaires, serait-ce le nouveau modèle de CNews ?
Ce matin, Le Figaro consacre un article à la chaîne Info en continu, dont les débats très musclés font de plus en plus parler. Et de plus en plus recettes. Les audiences de la chaîne sont en hausse, portées par les émissions d'Éric Zemmour et Pascal Praud notamment. Mais le volume de publicité a drastiquement baissé, surtout en début de soirée. Selon Le Quotidien, il y a eu 40% de pubs en moins entre le 1er et le 13 septembre que l'année dernière à la même période. Et entre 18h et 21h, la quantité de pubs est passée de plus d'une demi-heure l'an dernier à seulement 7 minutes cette année. Sur ce carrefour stratégique où CNews est leader des chaînes info, on retrouve les émissions de Laurence Ferrari, Éric Zemmour et Pascal Praud.
Et comment on explique cette dégringolade ?
Ça dépend à qui vous posez la question. Du côté de CNews, on assure que c'est 100% volontaire. Voilà comment la chaîne explique ça au Figaro. Je cite, « Au moment où nous sommes très regardés, nous essayons de créer un réflexe CNews. Si nous voulons renforcer la fidélité des téléspectateurs, il faut limiter les coupures. Mais si vous demandez à un expert du secteur, il vous répondra tout autre chose. Certes, les débats de CNews font de l'audience, mais ils font aussi fuir les annonceurs. Les marques ne souhaitent pas être associées à ces émissions et donc, mécaniquement, il y a moins de pubs. »
Et donc, s'il y a moins de pubs, les recettes publicitaires s'effondrent.
Si on en croit CNews, pas du tout. Au contraire, selon une agence média interrogée par Le Figaro, les recettes brutes de la chaîne Info ont augmenté de 25% sur un an et ils ont doublé sur deux ans. De son côté, la chaîne souligne aussi que ses audiences progressent sur les CSP+, les catégories socio-professionnelles supérieures. Je vous ai coupé et voilà. Je vous ai devancé.
Exactement.
Qu'elle peut donc vendre ses spots plus chers, moins de pubs pour plus de revenus. Voilà qui devrait conforter la chaîne dans sa stratégie éditoriale, vivement critiquée.
Tout à fait autre chose, Supergirl qui se prépare à son dernier vol.
Complètement autre chose. Les séries de super-héros ont toujours la cote aux États-Unis, mais l'une d'elles s'apprête à tirer sa révérence. On l'a appris hier soir, Supergirl ne volera plus en 2022. La série portée par la Canadienne Melissa Benoist sera de retour en 2021 pour une 6e saison, qui sera également la dernière. Alors en France, Supergirl a connu 3 chaînes déjà. TF1, Série Club et ses stars. On suit la cousine de Superman, l'une des dernières survivantes de la planète Krypton. Ah oui. Supergirl a été lancée en fanfare en 2010 sur la grande chaîne américaine CBS, qui espérait capitaliser sur l'attrait conséquent des téléspectateurs pour les super-héros. Mais après une saison aux audiences assez mitigées, elle a été reléguée sur la petite sœur de CBS, CW, pour rejoindre d'autres séries de super-héros comme Arrow, Flash ou encore Legends of Tomorrow. Supergirl est la 2e série de super-héros de la chaîne à tirer sa révérence un an après la 8e et dernière saison de Arrow.
Et puis on reste aux États-Unis pour un nouvel épisode de notre grand feuilleton Covid.
Voilà, ces derniers jours, on a surtout parlé de la France, mais le coronavirus n'a évidemment pas frappé que chez nous. On a appris cette nuit que la pandémie allait avoir un impact non négligeable sur la série 911 Lone Star. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une série dérivée de 911, actuellement diffusée sur M6 chaque jeudi soir. On en parle tous les vendredis matin dans les audiences. 911 Lone Star a été lancé début 2020 sur la chaîne américaine Fox et en France, M6 n'a pas tardé à en acheter les droits, donc on la verra sans doute l'année prochaine. Au générique de la saison 1, on retrouve notamment Rob Lowe, qu'on a vu dans Brothers and Sisters et à la Maison Blanche, mais aussi Liv Tyler.
Liv Tyler, c'est l'actrice du Seigneur des Anneaux.
Oui, ou encore de l'incroyable Hulk et plus récemment Ad Astra avec Brad Pitt. C'est un grand nom pour la série qui va malheureusement devoir s'en passer pour la saison 2. La comédienne qui habite Londres et qui faisait des allers-retours entre Los Angeles et Londres pour tourner 911 Lone Star a décidé de ne pas remplir pour cette deuxième saison. En cause, le fameux Covid-19 qui complique les déplacements de la comédienne, mais aussi qui le risque de contamination accru à force de traverser régulièrement l'Atlantique. Du côté des producteurs, on assure que le rôle ne sera pas recasté et que la porte restera ouverte si l'actrice souhaite un jour faire son retour dans la série.
Merci beaucoup Charles Decamp, à demain pour un nouveau journal des médias. Dans un instant, notre info média du jour, cette lettre ouverte pour la liberté d'expression initiée par Charlie Hebdo est signée par plus d'une centaine de médias. Les directeurs de la rédaction de L'Express et de Nice Matin seront avec nous. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Il n'est jamais arrivé que des journaux qui défendent souvent des points de vue divergents et dont le manifeste n'est pas la forme usuelle d'expression décident ensemble de s'adresser à leurs lecteurs et à leurs concitoyens d'une manière aussi solennelle. Fin de citation. Ces mots sont les premiers d'une lettre ouverte qui paraît ce matin, co-signée par une centaine de médias, dont Europe 1. Une lettre à l'initiative de Rhys, le directeur de Charlie Hebdo, qui veut interpeller les Français sur l'importance de la liberté d'expression, de l'heure de notre liberté d'expression. Piqûre de rappel nécessaire alors que se tient depuis le début du mois, le procès des attentats de janvier 2015, dont celui perpétré contre Charlie Hebdo, c'était le 7 janvier 2015. Pour en parler, je reçois deux patrons de médias signataires de la lettre. Bonjour Eric Scholl.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de la publication de L'Express. Bonjour Denis Caro.
Bonjour.
Vous n'êtes pas avec nous dans ce studio, vous êtes à Nice, vous êtes le patron des rédactions du groupe Nice Matin, avec nous en duplex de Nice et je vous en remercie. Question basique, elle fait la une de Charlie Hebdo, on voit une Marianne qui tient un porte-voix, c'est toute cette lettre qui barre la une de Charlie Hebdo. Denis Caro, pourquoi publiez-vous cette lettre ce matin? Vous parlez de défendre la liberté.
Oui, effectivement, vous l'avez dit, Philippe, c'est une initiative inédite. Hein, c'est la première fois que des médias aussi différents convergent et surtout utilisent cette forme d'expression assez peu courante chez nous, qui est celle du manifeste. C'est inédit parce qu'il y a un contexte qui est inédit, avec des menaces de plus en plus nombreuses, répétées contre la liberté d'expression. Bien entendu, l'illustration la plus spectaculaire, c'est les menaces à l'encontre de Charlie Hebdo. Les nouvelles menaces et les menaces à l'encontre de sa directrice des ressources humaines. Mais au-delà de ce contexte, on a un climat véritablement délétère, avec des menaces de plus en plus insidieuses, accélérées et amplifiées par les réseaux sociaux. On s'insulte, on se menace, on se confronte de plus en plus. Et on a l'impression que ce climat, ça libère certains penchants, certaines pulsions. On le voit, nos éditoriaux font de plus en plus réagir. Et quand je dis réagir, c'est les menaces, c'est les insultes. Nos articles, on était habitués à recevoir des réactions. Très souvent, c'est des menaces. On en a eu deux fois sur les dix derniers jours. Donc tout ça concourt à un climat extrêmement inquiétant et la crainte que la peur l'emporte. Et c'est ce qui est expliqué dans ce manifeste. Et qu'on finisse par s'auto-censurer, par crainte des réactions qu'on va susciter.
Toutes les situations des journaux sont différentes puisque vous en parlez, Denis Caro. Dans Nice Matin, vous venez de citer deux fois des menaces ces dix derniers jours. C'était au sujet de quoi ?
C'était au sujet d'articles très courants. Le premier sur une histoire de conflit de propriété. Une de nos journalistes a été appelée par téléphone et a été menacée physiquement. On sait qui vous êtes, on sait qui vous habitez. C'est plus récemment, il y a trois jours, la fille d'un caïd du grand banditisme qui a écrit à l'auteur d'un article pour là aussi. Le menacer physiquement. C'est des choses qu'on connaissait, mais de manière très rare. Là, aujourd'hui, on a l'impression que le climat et notamment tout ce qui est lié à Charlie depuis 5 ans, ça a libéré une forme de violence à notre encontre qui est de plus en plus inquiétante.
Votre encontre, c'est la presse en général. Eric Scholl, je me tourne vers vous. Je voudrais connaître la genèse de cette lettre ouverte. Tout a commencé il y a seulement quelques jours.
Oui, en fait, il faut, si on regarde ce qui s'est passé, il y a eu l'ouverture du procès des attentats de
l'hypercacher et de Charlie.
Quelques jours après, il y a eu des nouvelles menaces donc, qui ont été réitérées contre Charlie Hebdo et maintenant de Al-Qaïda. Mm-hmm. Et ces menaces.
Parce qu'il faut dire que Charlie Hebdo avait publié à nouveau les caricatures.
A republié d'une façon très courageuse, a republié ces fameuses caricatures qui avaient été publiées la première fois en 2006 et qui ont ensuite donné lieu à un premier procès en 2007, qui ont donné lieu à des menaces, qui ont ensuite débouché sur ces fameux attentats horribles de 2015. Et puis, et aujourd'hui, on voit à nouveau ces menaces venant d'Al-Qaïda être à nouveau proférées. Donc, Charlie, il faut comprendre comment fonctionne Charlie depuis 2015. C'est une équipe qui a été en partie décimée. Les dessinateurs survivants continuent à travailler dans une ambiance de sécurité absolue.
Bunkerisée. Je crois qu'il y a 8 portes pour aller de la rue à la salle de rédac. Il y a 8 portes.
Et donc, si vous voulez, il faut un courage incroyable pour ne pas rien lâcher sur cette idée. Sur ses valeurs, parce que c'est les valeurs qu'ils défendent. Et donc, si je reviens à votre question, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'à un moment, Charlie dit « Mais peut-être qu'on peut s'en parler entre journaux. » Et d'ailleurs, on aurait dû sûrement le faire. Cette initiative est tellement logique qu'on aurait dû la prendre beaucoup plus tôt. On s'est retrouvés entre directeurs des journaux. D'abord, ça a été la presse quotidienne nationale, la presse hebdomadaire, autour de RIS, pour se dire qu'est-ce qu'on peut faire ? Quelle initiative peut-on prendre ? Est-ce que c'est un rendez-vous, demander un rendez-vous au président de la République, qui est finalement le garant de nos libertés ? Est-ce que c'est un texte, ce texte à qui faut-il l'adresser ? Et on s'est dit que ce texte, il fallait absolument l'adresser aux Français. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une affaire juste de médias. C'est la défense de la liberté d'expression, c'est la reine des libertés et c'est l'ensemble des libertés. Lorsqu'on met en cause la liberté d'expression, on met en cause l'ensemble des libertés.
Vous étiez présent à cette réunion, tous les patrons de presse étaient là, ceux qui se tirent la bourre habituellement, je dis ça de manière un petit peu enlevée comme ça, qui ont tous fait cause commune.
Si vous voulez, il n'y a pas eu de débat sur, enfin, évidemment qu'on a eu des débats ensuite sur le texte lui-même,
bien sûr.
Mais on était autour de RIS et je dirais au-delà de ça, autour de la liberté d'expression. Il ne s'agissait pas de redire « je suis Charlie », il s'agit de défendre cette liberté d'expression et là-dessus, quel que soit le bord politique, quel que soit tous ces accrochages qu'on peut avoir parfois en studio, il s'agissait de défendre cette liberté d'expression, on était tous d'accord là-dessus.
On continue de parler de cette liberté d'expression avec vous Éric Scholl et Denis Caron, on revient dans 30 secondes.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
On parle de la liberté d'expression, de ce texte qui est en une de Charlie Hebdo et reproduit dans tous les médias, sur tous les médias français, radio, télé et presse écrite évidemment. Nous sommes avec le directeur des rédactions du groupe Nice Matin, Denis Caro, et Éric Scholl, le patron de la rédaction de l'Express. Denis Caro, on a su lundi soir que la directrice des ressources humaines de Charlie Hebdo, Marie Cabrette, qui a témoigné lors du procès, a dû quitter précipitamment son domicile. La raison, des menaces précises et circonstanciées reçues par les officiers de sécurité qui la protègent. Elle raconte ça au point, j'ai eu 10 minutes pour faire mes affaires et quitter mon domicile, 10 minutes pour abandonner une partie de mon existence, c'est un peu court et c'est très violent, je ne reviendrai pas chez moi. C'est également de cette réalité-là dont vous voulez parler dans cette lettre, pas seulement des menaces à l'encontre de la presse.
Bien sûr, et cette réalité, elle est absolument effarante. Hein, et ce qui est arrivé à la DRH de Charlie, il faut qu'on le dénonce et plus que ça. Et c'est aussi l'objet de ce manifeste. Il faut qu'on se réveille quelque part. 5 ans après, la menace est toujours là. Elle n'a pas changé. Certains revendiquent toujours de finir le boulot. On comprend ce que ça veut dire. 5 ans après, tout le monde n'est plus Charlie. Cette belle unité, elle s'est fissurée. Et on doit réagir et faire comprendre à tout le monde l'importance de la menace. Justement, à propos de Marie Cabrette, on complète la publication du manifeste par une tribune du journaliste toulonnais Claude Ardide, qui est un collaborateur de Charlie Hebdo et qui consacre cette tribune à Marie Cabrette, justement. Il nous explique que c'est une honte pour la République, une gifle pour la démocratie, et il explique, parce qu'il fait partie des journalistes qui vivent cette réalité que vous avez évoquée, que tous travaillent sous la protection de flics armés jusqu'aux dents, à l'abri d'un bunker, succession de pièces aux vitres et aux portes blindées comme dans un blocos. C'est absolument effrayant.
Marie Cabrette, qui était hier l'invitée de Mathieu Béliard en direct sur Europe 1. Éric Scholl, est-ce que l'Express a reçu des menaces menace, à l'instar, si j'ose dire, de Nice Matin.
Non, pas immédiatement. De toute façon, sur le fond, nous, on ne lâchera rien. On a fait une couverture récemment avec une grande interview d'Isabelle Razoui, qui, elle, est menacée et qui, elle, défend ce combat. C'est une ancienne de Charlie et qui défend ce combat contre l'islamisme radical parce qu'il faut, désigner les choses. C'est cet islamisme radical qui, aujourd'hui, s'en prend à nos libertés et à cette liberté d'expression. C'est un combat que nous souhaitons mener, nous, à l'Express. Comment on le mènera aux côtés de tous ceux qui... Et c'est pour ça qu'on s'est tout de suite engagé, évidemment, dans l'écriture de ce manifeste. Ça nous semble très important, surtout, de le faire comprendre à nos concitoyens. Je pense qu'il y a cette volonté de pédagogie, comprendre que le droit de blasphémer est un droit en France.
Exactement. Le délit de blasphème n'existe pas en France, c'est rappelé dans la lettre. Et vous avez dit dans un édito vidéo sur le site de l'Express, Éric Scholl, que le droit au blasphème existe en France, mais il faut du courage pour l'assumer. Aujourd'hui, vous publieriez des caricatures de Mahomet ?
S'il faut les publier, on le republiera, bien sûr. On a publié d'autres dessins. Et je pense que aujourd'hui, je ne suis pas sûr que l'idée, c'est autant. Je trouve que c'était une excellente chose de la part de Charlie Hebdo de republier ces caricatures et très courageux. Je pense qu'aujourd'hui, par ce manifeste, c'est aller aussi plus loin, c'est-à-dire d'englober l'ensemble de la communauté nationale dans ce combat.
Et justement, on va sortir un peu du journalisme. J'aimerais qu'on entende quelqu'un qu'on entend peu sur ce terrain-là, peut-être parfois pas du tout, Nicolas Bedos. Il était samedi l'invité de Michel Denisot. Je vous apprends, si vous ne le saviez pas, que Michel Denisot a une nouvelle émission sur Europe 1 désormais. Et Nicolas Bedos s'est exprimé sur cette question de la liberté d'expression en évoquant son père Guy Bedos, humoriste et surtout fervent défenseur de la liberté. Guy Bedos décédé en mai dernier. On écoute son fils Nicolas.
Moi je suis extrêmement troublé que mon père ait disparu l'année qui, en tout cas à ma connaissance, est la pire année pour la liberté d'expression qui soit. Je n'ai jamais vu, on ne va pas faire les choses dans le détail parce que ce serait trop long. Il n'y a pas une journée, il n'y a pas une semaine où elle est mise à mal. Ce que j'appelle de mes voeux, mais avec de l'émotion, c'est que les gens se révoltent, c'est que les gens, à l'occasion de la sortie de tel ou tel bouquin qu'on essaie de censurer, de telle ou telle blague qu'on sort de son contexte, de telle ou telle chanteuse ou interview à qui on va chercher des noises et qui fout en l'air une promo et tout un discours beaucoup plus large, je rêve d'un moment où on va tout le monde va se serrer les coudes et dire « ça suffit, arrêtez ».
Nicolas Bedos aimerait que les gens se révoltent, c'est votre souhait également Éric Scholl, mais comment faire ?
En soutenant la presse, en soutenant cette liberté d'expression, en comprenant ce que c'est que le droit au blasphème. On peut ne pas être d'accord, par exemple, avec les dessins. On peut même être choqué par ces dessins. Mais il faut, parce que c'est dans nos libertés, il faut accepter que ce droit au blasphème, il est très important. Il ne faut surtout pas tomber dans la soumission.
Denis Carreau, directeur des rédactions de Nice Matin. Que faire ? Même question qu'à Éric Scholl. Que faire en tant que citoyen ?
Effectivement, je pense qu'il faut soutenir la presse qui a été, on l'a vu ces dernières années, au-delà de l'affaire Charlie, beaucoup attaquée. Moi, j'ai en tête notamment cette forme de dictature de la pensée autour du mouvement des gilets jaunes, des thèses complotistes, des journalistes qui ont été critiqués, menacés, agressés physiquement. Ça a été notre cas. Je pense qu'il faut qu'on suscite et ce manifeste y participe, qu'on suscite une véritable prise de conscience.
Manifeste qu'on retrouve dans Nice Matin, évidemment, qu'on retrouve dans l'Express, évidemment. L'intégralité de la lettre est à retrouver sur le site europe1.fr. Merci d'avoir été avec nous, Denis Carreau, patron des rédactions du groupe Nice Matin. Merci Éric Scholl, patron de la rédaction de l'Express. Prochaine couverture.
À Édouard Philippe, l'histoire que vous n'avez jamais lue. Un super récit.
Qu'est-ce
sur
qu'on n'a jamais
années.
Lu
bah, lisez l'Express, un grand feuilleton.
D'accord. Merci beaucoup Éric Scholl. Merci Denis Carreau. Restez avec nous. Culture Média continue. On revient dans quelques instants, on sera avec Benoît Hamon et Camille Mestrachi, mais on ne va pas du tout parler politique. Ils lancent un nouveau podcast 100% anti-déprime. Je vous jure que c'est vrai, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Camille Mestrachi.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, vous êtes passé ici par Europe 1, France Info, plein d'autres rédactions, et vous avez décidé de lancer ici un podcast anti-déprime, et vous n'êtes pas seul. Bonjour Benoît Hamon.
Bonjour.
On vous a connu homme politique, ancien ministre de l'Éducation et surtout ancien candidat à la présidentielle de 2017. Vous avez obtenu 6,36% des voix à la 5e place. Depuis, vous avez pris du champ, quitté la politique ou pas. Vous faites quoi depuis ?
Des podcasts. Des podcasts avec Camille Maestrachi. Je fais plein d'autres choses. Je travaille dans le développement de l'économie sociale et solidaire, qui est ouais. une de mes, une de mes passions, c'est-à-dire développer des modèles économiques et entrepreneuriaux qui ne soient pas de la formule classique, capitalistique, quoi, non lucratif et démocratique. Et puis j'enseigne. Hier, j'étais avec mes étudiants à Paris 8.
Et vous avez encore des mandats électoraux ?
J'y me reste un bout de mandat de conseiller régional d'Île-de-France.
Qui va jusqu'à quand ?
Et jusqu'à l'année prochaine.
Alors, je l'ai dit, à la dernière élection présidentielle, vous avez obtenu, pardon de vous le rappeler, 6,36% des voix, le plus faible score pour un candidat socialiste. C'est pour cette raison que vous acceptez de vous lancer dans un podcast anti-déprime ?
Ah ben, je pense qu'on a besoin aujourd'hui, pas seulement d'idées neuves, parce que ça c'est une tarte, c'est de la tarte à la crème de dire ça, mais on a besoin de montrer qu'il y a des chemins.
J'ai mal posé ma question. Est-ce que vous avez déprimé après votre cinquième place ?
Ah pardon. Non, pas déprimé, mais en tout cas, bon, d'abord, vous ne prenez pas une gifle sans que ça vous ébranle et ça vous trouble. Et après, la question, c'est de savoir pourquoi vous l'avez prise. Est-ce que vous êtes le seul responsable de la gifle que vous avez prise ?
Non, ce n'était pas ma question. Mais on dit que les gens qui font de la politique ont le cuir tanné et qui se relèvent très très vite des coups qu'ils reçoivent.
Bon, je ne sais pas, en tout cas.
Parce que je veux faire le lien avec ce podcast anti-déprime.
On a pris l'habitude. En tout cas, ce que je pense qui m'est resté de ça, c'est que quand Camille Maestrachi m'a appelé pour me proposer de faire un podcast sur des idées heureuses, des solutions positives, je me suis dit quand même que ce qu'on avait fait lors de l'élection présidentielle était un petit peu contre l'air du temps. Le revenu universel, l'attaque sur les robots, c'était les perturbateurs endocriniens à l'époque. C'est qu'on cherchait des solutions et essayait d'avoir un temps d'avance. Bon, ben, on va rester en tout cas philosophiquement. Je me retrouve bien, quoi. C'est cohérent avec ce que je crois et ce que je pense.
Camille Maestrachi, c'est quoi la genèse du projet ? On comprend que c'est vous l'instigatrice de ce projet. Et pourquoi être allée chercher spécifiquement Benoît Hamon ?
La genèse du projet, c'est que, comme vous l'avez dit, j'ai travaillé dans des rédactions, je viens de la radio, et je me suis lancée en freelance depuis 2 ans maintenant. Donc, c'est moi qui cherche des idées de podcast, et j'avais très envie de faire un podcast engagé. Qui, comme je le dis souvent, c'était dans le communiqué de presse, je crois, fait avancer le schmilblick en quelque sorte. L'idée, c'est de...
En général, en français, quand on dit engagé, c'est à gauche.
Alors ça, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, engagé, c'est assumer.
Il y a plein de gens engagés à droite.
Oui, mais
ça ne va pas échapper quand même.
Ça ne va pas échapper, mais quand on donne juste cet adjectif-là en substantif, ça veut dire à gauche. Je ne vous le reproche pas, j'explicite simplement.
Non, enfin moi, en tout cas, ce n'est pas ce que je revendique. Engagé, ça veut dire que j'assume d'aller dans une direction. On dit un podcast anti-déprime, on dit des idées positives qui, selon nous, nous font avancer vers un monde meilleur. Donc là-dessus, il y a un engagement.
Et pourquoi Benoît Hamon ?
Pourquoi Benoît Hamon ? Alors, parce que le podcast s'inspire d'une version anglaise qui s'appelle Reasons to be Cheerful avec Ed Miliband, l'ancien patron travailliste anglais, et un journaliste qui s'appelle Geoff Lloyd. Et au moment où je voulais faire ce projet un peu engagé, effectivement, j'ai découvert ce podcast anglais qui marche très bien. Et puis, donc, en voyant le profil d'Ed Miliband, je me suis dit Benoît Hamon, qui n'est plus en politique, comme Ed Miliband, qui s'est retiré également, a un peu le même profil.
On va entendre la bande-annonce.
Salut, c'est Camille Maestrachi. Je suis journaliste et avec Benoît Hamon, on a voulu réfléchir ensemble à des idées originales susceptibles de nous aider à mieux vivre demain.
On ne va pas vous proposer de remède miracle, ni de solution à tous vos problèmes, mais on vous garantit un podcast 100% anti-déprime qui étudie, questionne des idées qui nous laissent croire qu'un avenir plus durable, plus juste et plus solidaire est possible.
On vous propose de changer de regard, d'ouvrir une porte qui laisse entrevoir un nouveau champ des possibles et de bousculer un peu votre façon de penser la société.
Et si l'école n'était jamais finie ?
Et si la nature avait droit à un avocat ?
Et si on mesurait la croissance du bien-être plutôt que celle du PIB ?
Et si on arrêtait de s'asseoir ?
Et si tout le monde allait chez le psy ?
Et si on ne travaillait que 4 jours par semaine ?
Bref, et s'il était temps de penser le monde autrement ?
Le podcast « Et si » est donc une série mensuelle. Le premier épisode est consacré à l'école, il est déjà disponible. Et si l'école n'était jamais finie, pourquoi ce choix pour débuter ? C'est parce que Benoît Hamon avait été ministre de l'Éducation nationale ?
Alors, pas du tout. Pas du tout. En plus, à l'origine, on voulait même commencer par l'épisode suivant là, qui va suivre, c'est « Et si on arrêtait de s'asseoir ?» Justement parce qu'on voulait être un peu décalé et se dire qu'on n'allait pas nécessairement plonger sur un sujet éducation. Il se trouve que juste le premier épisode sur l'éducation était terminé avant.
Ouais.
donc voilà, c'est une simple raison comme ça. En revanche, c'est un sujet... Il y a plein de sujets et sur l'éducation qu'on a envie de...
Comment ?
Il est super, il y a pas...
Ah oui, je l'ai entendu. Ah. On a appris plein de choses. Bah, d'abord, vous inspirez d'un modèle danois qui date de 1844.
Oui, la højskole, la folk højskole. C'est en fait l'éducation populaire et permanente. Les gens vont à l'école, même sur leur temps de congé. Incroyable. Ouais. Ouais. Ils y vont de même, hein, aucune incitation, pas payé, il n'y a pas de diplôme à la fin, juste pour alors, chanter le matin, manger ensemble, et puis faire un cours sur le jazz scandinave, la philo et les présocratiques en philo, la charpente, la transition écologique. Et on s'est dit, bon, d'abord c'est génial, est-ce que c'est transposable chez nous? Évidemment, ça va prendre du temps, on peut l'imaginer, mais comment est-ce qu'on peut amener des gens qui ont parfois eu une expérience compliquée avec l'école? On peut les ramener devant, sur les bancs de l'école, voilà.
Et comment on peut amener des gens à écouter des podcasts sur un sujet auquel ils ne s'attendaient absolument pas? La réponse avec Benoît Hamon et Camille Maestrachi, juste après ça.
9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Et si l'école n'est jamais finie? C'est la réponse au premier podcast intitulé « Et si ?», lancé par Camille Maestrachi avec Benoît Hamon. C'est une idée à vous, Benoît Hamon. J'ai appris dans ce podcast qu'une partie de votre famille est danoise.
Oui, de ma femme. En fait, l'idée, pour être très simple, c'est effectivement partie d'une expérience de vie. C'est que quand on va au Danemark pendant l'été, on y va sur le temps de congé évidemment de la famille, mais il faut qu'on regarde si ça colle avec le moment où, sur leur temps de congé, ils vont à l'école. Et donc,
ils ont école pendant les vacances.
Ils choisissent d'aller à l'école. Mais en fait, ils ont un rapport au savoir, à la connaissance qui est différent et où ils considèrent qu'apprendre, c'est grandir, apprendre avec les autres. Et c'est surtout ça qui est très important, c'est que c'est une expérience du commun. Et eu égard au débat qu'il y avait sur votre antenne juste avant, on sent bien aujourd'hui qu'on a besoin de faire à nouveau des expériences du commun, c'est-à-dire de partage et un peu moins de polémique. Aujourd'hui, tout est prétexte à polémique et c'est un peu le sens du podcast aussi. Des idées en discussion et tout le monde s'en sert.
Les idées, vous êtes en campagne, parce que moi, je l'ai écouté le podcast en entier et vous préconisez une 6e semaine de congés payés pour aller à l'école. C'est utopiste.
Bon, je vais laisser parler Camille, mais en fait, non. En fait, l'idée, c'était tout simple. C'est-à-dire, si vous voulez que les gens reviennent à l'école, c'est pas facile de revenir à l'école. Surtout que le système éducatif français peut être dur, difficile, parfois traumatisant.
Non, mais on vit dans un monde utopique.
Moi, ce que je pense,
les gens payés pour aller en classe, non, qui va les payer?
Vous êtes aujourd'hui payé pour aller à la plage avec vos 5 semaines de congés payés. L'idée, c'est que là, c'est une 6e semaine de congés payés.
Ah, mais non, la personne qui va à la plage paye.
Vous êtes payé votre salaire, vous avez versé pendant vos vacances. Là, on dirait qu'il n'y aura plus 5 semaines de congés payés, mais une 6e, optionnelle. C'est-à-dire que vous pourriez quitter votre travail à condition d'être inscrit dans un cycle de l'école populaire, c'est-à-dire de vouloir justement revenir sur les bancs de l'école. Bon, c'est une manière de réduire le temps de travail, c'est une manière aussi d'avoir un nouveau rapport au savoir, voilà.
Mais ça serait financé par les entreprises?
Non, les fonds d'information professionnelle. Aujourd'hui, il y a plein de fonds. On ne va pas rentrer dans la technique politique parce que...
Parce que c'est très intéressant dans le podcast et la manière que vous avez de débattre. Par exemple, vous débattez tous les deux, vous tutoyez
dans le podcast. Oui, ça c'était quelque chose... pareil, c'est un parti pris en fait. Je trouvais très intéressant, encore une fois dans la version anglaise, cette convivialité qui s'était installée entre Geoff Lloyd et Ed Miliband. Ils ont l'air d'être copains, voilà. Alors moi, je connaissais pas Benoît Hamon avant de le rencontrer, de lui
j'allais vous demander si vous étiez des anciens
non pas du tout, mais il se trouve que voilà, il y a une alchimie qui a fonctionné. Je lui ai proposé le sujet, je lui ai présenté le podcast anglais, on en a discuté longuement à plusieurs reprises.
C'est vous qui avez dit longuement?
Oui.
Parce que je dois vous dire, j'ai écouté et je crois avoir découvert la question la plus longue de l'histoire du podcast.
Qu'est-ce qu'on en tire pour la France ? Parce qu'il ne faut pas non plus oublier que la France a une vraie et longue histoire d'éducation populaire. Tu as cité tout à l'heure l'université populaire de Michel Onfray. Mais l'éducation populaire, c'est aussi les MJC, les missions locales. Je veux dire, c'est tout un tas de structures, d'associations, il y en a des centaines de milliers en France, qui dispensent des cours, qui proposent l'apprentissage de certaines disciplines, depuis le management en entreprise jusqu'à des cours de dessin, de poterie, de danse, etc. Tout ça, ça fait partie du mouvement de l'éducation populaire. Donc, on a ça en France. Qu'est-ce qui fait qu'on a, on n'a pas ce modèle danois de culture de l'apprendre? Et surtout ce côté intergénérationnel. Et comment est-ce que, au vu de ce qu'on a, on peut s'inspirer du modèle danois, à ton avis?
Bon, alors je tiens quand même à préciser...
52 secondes.
Mais c'est pas seulement une question, parce que je rappelle l'origine de l'éducation populaire. Après, on a une demi-heure devant
nous. Mais c'est pour ça que
nous.
Vous avez choisi le format du podcast.
Absolument.
Par rapport à la radio.
Absolument, on a une demi-heure devant nous. L'idée, c'est de prendre notre temps. Ouais. On n'est pas en direct, donc on peut se permettre de...
On a un invité à chaque fois.
Voilà. Ouais. Non, mais c'est assez dense, hein. C'est sûr qu'on parle beaucoup. Et puis après, moi, je fais un travail derrière de montage, où je vais garder les morceaux qui semblent les plus pertinents, etc. Mais effectivement, le fait qu'on ne soit pas en direct et qu'on puisse prendre le temps d'exprimer notre pensée, de la formuler au mieux pour qu'elle soit ensuite bien comprise et claire, je pense que c'est un luxe qui est intéressant dans le podcast.
Voilà, mais contrairement à tous les podcasts feel good ou du journalisme de solution où les gens se disent qu'est-ce que je peux faire moi, là, ce que vous proposez, c'est une solution étatique. C'est plus pour les...
Non, la prochaine fois, vous verrez. La prochaine fois, c'est...
La prochaine fois, c'est...
arrêter de s'asseoir.
Mais
on
s'asseoir
a réfléchi à la
au sédentarité. Au sens propre du terme.
Oui, mais c'est-à-dire, on va pas maintenir les gens debout.
Non, on pourrait faire une émission de radio debout. Hein.
Oui,
il y a plein d'émissions de télé où les gens sont debout.
Enfin, qu'on va proposer un corset pour tout le monde. Non, voilà. Je blague. Mais plus sérieusement, l'idée, c'est on s'est penché sur les conséquences sanitaire,
ouais.
Du fait d'être tout le temps dans la position assise. C'est un peu lié à nos écrans aussi. Mmh. Et les conséquences sont quand même très lourdes. Hein. Il y a quand même des enquêtes qui montrent que sur les maladies cardiovasculaires, ça a des impacts tout à fait importants. Donc, on a essayé de réfléchir là, avec des exemples qui viennent d'Australie, avec un professeur d'université de Clermont-Ferrand, à la façon dont on pouvait rompre ce rythme qui veut qu'aujourd'hui, on est cloué les deux fesses sur notre fauteuil et que, bah, en faisant ça, on diminue notre espérance de vie, tout bêtement.
Benoît Hamon, deux petites questions pour vous. Même le magazine People Closer parle de votre projet encore secret pour revenir sur le devant de la scène. Est-ce que ce podcast en fait partie ?
Bon, moi, je ne peux pas empêcher les journalistes d'être des journalistes et de se poser des questions, mais même si ça ne va nulle part.
Non, le Parisien dit que vous êtes prêté à publier un livre concernant des propositions pour la France.
Ouais.
Est-ce que vous confirmez l'info du Parisien ?
Je confirme que je publie un livre qui va être consacré au revenu universel et je me suis justement interrogé sur pourquoi les classes populaires et les Français les plus modestes étaient les plus rétifs au revenu universel et d'où venaient les racines aujourd'hui de leur rapport au travail.
Ouais.
Donc j'ai réfléchi là-dessus, d'abord parce que il faut apprendre de ses échecs, les travailler, réfléchir. Et donc oui, je fais tout ça, mais c'est pas parce qu'on écrit des livres qu'on va être candidat à l'élection présidentielle quand même.
On a bien compris. Et puis Camille Maestrachi, prochain projet, vous écrivez, vous faites le podcast du Gorafi?
Oui.
Ça vous fait rigoler.
Bah oui, ça fait partie des différentes cordes à mon arc. Je travaille sur différents projets de podcast, des podcasts avec Louis Média, avec Benoît Hamon et avec le Gorafi.
Je vais laisser dans le Gorafi. Emmanuel Macron va remplacer les figurants du ministère de l'écologie par des vrais comédiens. Ça, c'est politique. Et puis, drame, un hamburger sur deux est mangé avec des couverts. Je ne m'en remettrai pas. Merci beaucoup, Camille Maestrachi. Merci, Benoît Hamon. Je rappelle,
merci,
le podcast Et si, le premier épisode est consacré à l'école. Et si l'école n'était jamais finie, et c'est dispo, on ne l'a pas dit, sur toutes les plateformes d'écoute, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast. Et j'en oublie, Culture Média continue. Il y aura le rappel des titres à 10h. Et puis on va recevoir Eva Rock pour son zapping du lendemain. Bertrand Chamerois pour son écran de veille consacré à Tout le monde joue en cuisine. Alexis Michalik, le metteur en scène et dramaturge, pour la reprise de ses 5 pièces au théâtre en même temps. Il en écrit 5. Les 5 sont à l'affiche, c'est unique. Et puis dans les indispensables, une sélection des sorties ciné du jour et un nouveau Comedy Club. À tout de suite.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.